Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main-d'œuvre.
Bonjour et bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Écologistes radicaux contre les technologistes. C'est le 19e et dernier épisode de la série Face au monde machine. Un entretien technocritique au long cours avec les grenoblois de pièces et main-d'œuvre. Nous voici au terme de notre longue aventure. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le tout premier pour une meilleure compréhension globale, pour profiter de cette série. La plupart des gens réduisent la technocratie à la bureaucratie, aux énarques, à ces fonctionnaires de Bruxelles qui réglementent la fabrication de nos fromages. Ce n'est qu'une infime part. La technocratie se définit comme une classe consciente d'elle-même, la classe de l'expertise et de l'efficacité, de la rationalité maximale. La théorie marxiste n'avait pas prévu l'avènement de la technocratie, mais PMO a enquêté sur cette affaire. Vous écoutez donc une histoire de la technocratie, cette classe qui, entre le 19e et le 20e siècle, hésite entre créer son propre parti ou agir politiquement dans l'ombre des partis bourgeois ou ouvriers. Cette histoire vous est présentée en deux parties. La semaine dernière, vous écoutiez la première. Voici la seconde, suivie de la conclusion de toute notre série. Bonne écoute.
La même pensée irrigue la même classe d'hommes qui hésitent entre se mettre en avant ou agir dans l'ombre au niveau politique en tout cas, agir dans l'ombre soit des partis bourgeois, soit des partis ouvriers. Et en fait, ça lui convient bien parce que finalement l'action politique, c'est pas son truc. Comme Ford l'explique, il vaut beaucoup mieux être ingénieur parce que là, on change les choses réellement. Et tu forces, en fait, les politiciens à courir derrière toi. Mais il y aura quand même un certain Howard Scott qui fréquente Veblen, ils travaillent ensemble, tout ça, pour lancer quelque chose qui s'appellera le mouvement technocratique. Et c'est comme ça que ça s'appelle, le mouvement technocratique, l'alliance technique, qui ira environ des années 20 aux années 1940 aux États-Unis. C'est le seul mouvement au monde qui se soit revendiqué technocratique. Hein, avec le manifeste de Veblen sur tout le pouvoir aux soviets de technocrates et tout. Et alors il copie un petit peu sur... Il récupère des rescapés du People's Party, des clubs nationalistes, etc. Enfin, des trucs qu'avait travaillé Bellamy avant eux. Et ils ont une structure qui est un peu copiée sur les partis de masse de l'époque, communistes ou fascistes. Tu vois, ils font des marches. Ils font des grands rassemblements, ils ont des chefs, ils ont des sections locales, des organisations, ils ont des plans, ils ont des uniformes. Ils montent, tu vois. Enfin, c'est toutes les années 30. Et puis, ils font des défilés, enfin, ils font des congrès. Plus ou moins, ils couvrent la prise du pouvoir, ils se demandent comment prendre le pouvoir. Et puis finalement, ça ne va pas marcher. Et ils vont faire un truc qui leur ressemble bien plus. Ils vont se dissoudre. Je me rappelle même plus si la dissolution a été prononcée officiellement. Et ils vont se fondre dans le Parti démocrate. Et ils vont fournir les cadres du New Deal. Le New Deal, c'est eux. Le New Deal de Roosevelt est un mouvement foncièrement technocratique, avec un programme foncièrement technocratique. Des grands travaux, des infrastructures, de la planification, du dirigisme, de l'argent public. Donc ils vont se fondre là-dedans, dans tout ce qui est la Tennessee Valley Authority, tous ces trucs-là. Et ils vont disparaître dans le New Deal. Et leur histoire autonome s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'est que la première campagne électorale de Roosevelt. Bon, il fait beaucoup de déplacements, tout ça. Et alors, comme dans toutes les campagnes électorales à l'américaine à l'époque, maintenant tout le monde fait ça, c'est la moindre des choses. Mais à l'époque, il a un hymne de campagne qu'on joue dans tous ses meetings, dans tous ces trucs-là. Et c'est Happy Days are here back, here again. Les jours heureux sont de retour, etc. Bon, que tu peux l'entendre, tout le monde peut l'entendre sur le net, Happy Days, bon. Et ce Happy Days devient une comédie musicale, c'est exporté à Paris, ça a beaucoup de succès partout, et ça va être repris par le Conseil National de la Résistance en mars 1944, quand ils se réunissent pour dire, bon alors qu'est-ce qu'on fait, ils vont bientôt débarquer, il faut qu'on reprenne la main, etc. Il faut qu'on fasse un programme. Ouais. Donc le Conseil National de la Résistance, ça réunit 7 mouvements de résistants. Les communistes y sont en leur nom propre, Parti communiste, et ils y sont sous le nom de Front National, qui est une de leurs organisations. Tu vois. Et puis il y a le Parti Socialiste, il y a le Parti je sais pas quoi, il y a des petits partis de droite, il y a les syndicats, CGT, CFDC, enfin tout ça c'est les gens qui ont été rassemblés par Pierre Brossolette et Jean Moulin. Et donc le problème est de faire un programme. Enfin, ils ont un programme double. Un problème double. Soutenir De Gaulle et faire en sorte que De Gaulle soit leur représentant à l'extérieur. Ça, c'est pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté nationale vis-à-vis des anglo-saxons et vis-à-vis de la droite vichiste et vis-à-vis du général Giraud qui à un moment donné apparaissait comme le concurrent de De Gaulle et le candidat des Américains. Bon. Et d'autre part, faire un État moderne, rationnel, progressiste, technocratique. Hein? Et donc, ils font un programme qui est baptisé le programme des jours heureux.
Qui vient de l'hymne
américain, les Happy Days. Ça leur paraît trop chouette, et donc ils reprennent le terme. Hein? Et ils écrivent leur programme, qui fait une dizaine de pages, et il est tiré clandestinement, diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, 200, 300 000 exemplaires. Et toujours avec ce programme de grands travaux, socialisation, planification. Bah, c'est de là qu'est sortie la planification d'après-guerre, mais aussi la sécurité sociale, mais aussi les caisses de retraite, mais aussi ce qui fait que ça a toujours été revendiqué par la gauche, par l'extrême gauche, et que tu as eu, dans les années 2000, cette tentative de le faire revivre avec Attaque et compagnie. Donc je crois à peu près que je vous ai tracé une trajectoire de la classe technocratique, que j'ai justifié l'appellation de classe. C'est bel et bien une classe distincte et autonome de la classe ouvrière, et d'ailleurs liquidant la classe ouvrière. Liquidant la classe ouvrière, ça on pourrait y venir. Et présente sur l'échiquier politique, dans l'ère politique, prenant soin de ne pas être présente sous son propre parti, mais présente dans tous les partis. Moi, je prétends que le Parti communiste est un parti technocratique, le Parti socialiste est un parti technocratique, les mélenchonistes sont technocratiques, le parti du président Macron, bah alors lui, pour le coup, c'est le champion de la technocratie à l'heure actuelle, et c'est par les Verts également, le Front National également. Alors chacun avec une nuance qui permet de sauver les apparences et qui permet à la technocratie de ne pas apparaître escalité et de sauver la fausse apparence d'un vieux clivage droite, gauche. Il y en a qui sont plus sociaux, puis il y en a qui sont plus nationaux, puis plus bourgeois, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est tous des partis technocrates. Et donc
tu dis 50 nuances de technocratie.
50 nuances de technocratie qui forment ce que, in fine, récemment, on a nommé le parti technologiste, par opposition au parti écologiste. Voilà.
à un moment où, dans cette histoire de l'émergence de la classe technocratique, il y a eu des mouvements de résistance qui ont pu déstabiliser un petit peu les tenants de cet ordre technocratique. Le seul exemple là qui me vient en tête, c'est la révolte qu'il y a autour de Goulay Hippolier avec Nestor Makhno. Est-ce que ça a été considéré comme une véritable menace?
Ah, tu veux dire la Makhnovista? Non, enfin, les mouvements qu'il y a eu... La classe technocratique a été une classe en soi, enfin pour reprendre le vocabulaire de Sartre, a été une classe en soi avant de devenir une classe pour soi. Et elle a toujours pris soin de rester dissimulée. Et comme elle n'apparaissait pas escalitée, elle a toujours eu des paravents qui lui ont servi de leurre. Ce qui fait que le peuple, la classe paysanne, la classe ouvrière, ne s'en est pas pris directement à la classe technocratique, mais s'en est pris auparavant et au leur. Donc toute l'histoire du 19e siècle, c'est en fait le combat des républicains contre les réactionnaires, contre les réactionnaires cléricaux, hein, contre la droite catholique, monarchiste, boulangiste et compagnie. Puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, apparition massive, ils existaient avant, mais là émerge vraiment ce qu'on appelle les républicains sociaux, donc une nuance de républicains qui veulent tirer la République vers le socialisme, vers le drapeau rouge. Il y a un moment là qui est beaucoup débattu, qui est le moment de l'affaire Dreyfus. Alors si tu en crois Michéa, c'est le moment de l'apparition de la gauche. C'est le moment où le Parti républicain arrive à satelliser la gauche ouvrière, enfin qui n'existe pas, la classe ouvrière et les partis ouvriers, anarchistes, syndicalistes, etc., sous la bannière de la lutte contre l'antisémitisme, le cléricalisme, et en fait à mobiliser le peuple contre ses propres ennemis, contre les partis monarchistes et bonapartistes, ou républicain de droite, enfin de républicain autoritaire. Ce qui est sûr, c'est que les seules résistances qu'il y a eu sont aussi des résistances en soi et non pas des résistances pour soi. C'est-à-dire que il y a eu des briseurs de machines, il y en a eu dans toute l'Europe. Bon, maintenant c'est très documenté, on en a tous parlé, enfin tous les anti-industriels ont publié des bouquins surlus ou repris une armée de justiciers, le chapitre sur les ludites de Thompson dans la formation de la classe ouvrière. Nous, on l'a mis en ligne. Hein. On a parlé, nous, des briseurs de machines dans l'Isère, dans le Rhône. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux canuts. Les canuts ne sont pas des briseurs de machines. Pas du tout. Les canuts ont des machines, fabriquent des machines. Les canuts, ce sont des petits artisans, des petits patrons qui travaillent en famille ou avec un ou deux compagnons, un ou deux apprentis. Et leur problème, c'est pas du tout de briser les machines, contrairement à ce qu'a raconté la presse bourgeoise. C'est d'avoir, comme on a dit déjà, le tarif de journée, le prix de journée, qui est une revendication très ancienne. Il y avait déjà des émeutes sous l'Ancien Régime pour demander ça. Hein, ces artisans soyeux. Ils sont artisans soyeux comme tu as des petits patrons du bâtiment, par exemple, ou cordonniers, ou je sais où, tisserands, ou je sais pas quoi. Bon, ils réclament pas l'abolition des machines, ils veulent qu'on paye leur journée. Donc on ne peut pas les compter parmi les briseurs de machines. Les briseurs de machines, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu à Rouen, il y en a eu en Belgique, au moment de l'indépendance de la Belgique. La révolution pour l'indépendance de la Belgique, en 1831, commence par un épisode de bris de machines. Et en fait, c'est des ouvriers imprimeurs qui viennent de Paris, où ils viennent d'assister aux Trois Glorieuses, où ils ont vu les ouvriers imprimeurs briser les machines des imprimeries, qui arrivent à Bruxelles et qui propagent le bris de machines, et qui manifestent avec le drapeau français. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent leur attachement à la France, ça veut dire que... Il faut faire comme en France, quoi. Bref. Donc, à ce moment-là, les bruits de machines, tu as eu des bruits de machines sporadiques, récurrents, isolés. Tu n'as jamais eu un regroupement organisé, stable, d'opposants à la machine. Tu as eu une protestation romantique contre la machine, qui est passée par des poètes, par des peintres. On en a parlé dans notre bibliothèque verte, donc le groupe impressionniste. Pour moi, on ne comprend rien au mouvement impressionniste si on ne le voit pas comme la fixation sur la toile d'un monde qui est en train de mourir, qui est le monde de la couleur vive. Voilà. Et Pissarro, qui est un ami d'Élisée Reclus, fait lui-même partie du mouvement anarchiste. C'est un sympathisant. Bon, on a mis Élisée Reclus, on a mis les Naturiens, qui sont ces anarchistes qui ont fait les premières communautés à la campagne. C'était des plagiaires par anticipation. Ils n'avaient pas lu tous les savants ouvrages que les souteneurs de thèse publient maintenant sur « Il faut retourner à la campagne, cultiver notre jardin ». Enfin bon, comme Épicure d'ailleurs, comme bon, tous ces gens-là. Mais en fait, ils l'ont fait. Bon, ils l'ont fait. Les Naturiens l'ont fait.
Tout ça, c'est antérieur à la montée de la classe technocratique, en fait. Mais dans la période qui a été évoquée, sur vraiment ce moment de la classe technocratique qui se constitue et qui prend conscience d'elle-même, honnêtement, c'est ce qui est impressionnant, c'est à quel point c'est transpartisan, en effet, et transnational. Donc, entre l'État français de Vichy et ensuite le programme gaulliste CNR.
Et le Front populaire avant.
Et effectivement, avant déjà le Front populaire, il y a une continuité technocratique, on peut dire, sur les programmes d'aménagement, de planification, de développement, qui est la même, finalement, qui ne varie pas tellement d'un iota. Alors évidemment, il y a des circonstances.
La continuité l'emporte sur la discontinuité.
Les circonstances historiques font qu'on distingue des périodes, mais quand tu regardes l'histoire avec le recul, tu t'aperçois que encore une fois, il y a une trajectoire et que la force motrice puissante, c'est celle de la technocratie. Et face à ça, il y a peu de choses, mais il y a quand même, on les remet quand même en avant, élus les charbonneaux, les personnalistes, qui, dans leur petit isolement provincial, arrivent à déceler ça en temps réel, ce qu'on a déjà dit, mais au-delà des clivages partisans et idéologiques, voient le fond commun, la trajectoire, justement, et la dénonce dans les années 30.
Non, on a déjà parlé, oui. CNRS. Le CNRS a été fondé sous Daladier, le CNRS est fondé en 1939. Donc c'est encore le gouvernement du Front populaire, même si la période du Front populaire est passée, c'est Daladier, c'est à ce moment-là qu'il est fondé. Quand De Gaulle écrit « Vers l'armée de métier », il ne veut pas parler d'une armée de mercenaires. En fait, ce qu'il veut dire, c'est vers l'armée professionnelle, une armée de professionnels. Il parle de l'armée de métier comme Lénine parle d'un parti de révolutionnaires professionnels, c'est-à-dire une armée de spécialistes. Et il l'explique longuement. Tu vois, il faut des tanks, il faut des avions, ce sont des machines, il faut des machinistes, il faut des ingénieurs, il faut des mécaniciens, il faut des... Et c'est ça qu'explique De Gaulle dans « Vers l'armée de métier ». Quand il dit « l'armée française doit se doter d'une armée de métiers ». Et quand il parle de la division blindée, en expliquant que c'est ça l'avenir. La division blindée autonome, avec ses tanks, sa propre flotte de camions-citernes qui la suit pour l'approvisionner au maximum, son infanterie montée qui éclaircit le terrain, voilà, et sa couverture aérienne. Et il dit « une pareille division » fait 100 km par jour. Hein? Bon, évidemment, ni Pétain, ni les politiciens de la Troisième République ne l'ont écouté. Et donc, la division blindée a été fondée par Guderian. Et Guderian a envahi la Pologne avec, avant d'envahir la Belgique et la France avec. L'armée allemande a pris les Pays-Bas et la Belgique en deux jours. Et le 10 mai, ils attaquent à travers les Ardennes et Sedan. Et ils prennent la France en 20 jours. Avec des divisions blindées. Et De Gaulle se... Ah, Et quand il lance son appel du 18 juin, si vous le relisez soigneusement, il n'appelle pas tout le monde à le rejoindre en Angleterre. Il invite les mécaniciens, ingénieurs des industries d'armement, en expliquant que, foudroyés par une force mécanique supérieure, nous pouvons vaincre à notre tour, etc. etc. Ne nous y trompons pas, enfin, le destin du monde est là. Donc, le destin du monde est là. Donc, ça veut dire que ce général 2 étoiles, qui a commandé une vague charge de blindés avec des tourelles qui ne bougeaient pas à Montcornet, qui a commencé avant la guerre de 14 dans la cavalerie, voilà, dada, et qui terminera avec la bombe atomique, a une vision claire et nette de son époque. Hein, et s'inscrit pleinement dans le mouvement technocratique. Mais plein d'autres gens, Mendès France, qui lui est de gauche, mais qui soutient exactement les mêmes vues, qui les soutiendra après-guerre, et puis bien d'autres, on pourrait les énumérer. Enfin, c'est...
Et donc, juste pour finir, revenir sur ta question, dans les années 30, on peut mentionner Ellul et Charbonneau, parce qu'à 25 ans déjà, ils produisent... leur réflexion sur ce qui est en train d'arriver, et ils voient ça, et c'est ça qu'ils dénoncent. Et après guerre, t'as quand même des gens qui, ça y est, ça commence beaucoup plus là, parce que la guerre est passée par là, et que donc on comment dire, il y a eu Hiroshima, et Nagasaki, et qu'on commence à percevoir le rôle de la science, de la big science, dans la destruction du monde. Et donc, c'est tout le moment de Arendt, Anders,
Camus,
Simone Weil aussi. Enfin, là, ça y est, tu commences à avoir ces penseurs qui raisonnent sur ces critères-là. Et non plus uniquement sur des partitions
t'as
partisanes,
étapes,
etc. Enfin,
tu as 3 grosses étapes. Tu as Hiroshima. Alors là, subitement, il y a une partie de l'intelligentsia qui fait sécession, qui dit non, là, c'est plus possible. De Camus à André Breton. Tu as une deuxième étape. C'est dans les années 60 aux États-Unis. C'est Bookchin et Rachel Carson. Rachel Carson est plus connue, mais c'est après Bookchin. Mais Bookchin a écrit avant elle et a décrit la même chose. Bookchin a été le premier à parler des centrales nucléaires et à militer contre les centrales nucléaires et à faire son truc sur le DDT, tout ça. Bon, et elle est venue après, mais elle, c'est une femme et c'est une scientifique.
Mais c'est surtout parce que c'est une scientifique.
Et donc, ça a contribué à déporter le mouvement écologique sous la tutelle des scientifiques, ce qui est mortel. Bon. Et la troisième étape pour nous en France, le grand moment... Bon, ça faisait déjà longtemps que tu avais des groupes qui s'inquiétaient des chefs-d'œuvre en péril. Voilà, c'était toute la destruction du patrimoine en France et des paysages. Tu avais des groupes qui s'inquiétaient de ça. C'était une préoccupation. Et puis tu as un moment qui a vraiment fait tilt, enfin un double mouvement, c'est l'explosion de la raffinerie de Fezin, je crois que c'est en 67, je ne suis pas sûr, peut-être après. Et surtout, la marée noire du Torrey Canyon, en 67. Et là, à ce moment-là, là aussi, il y a un truc qui part, parce que le mouvement antinucléaire, il est phagocyté par les communistes, qu'ils transforment en mouvement antimilitariste et anti-américain, pour ne pas avoir à remettre en cause la science et... bon. Le nucléaire, oui, mais soviétique, bien sûr. Mais le Torrey Canyon, bon, c'est le moment où Pierre Fournier commence à écrire dans Harakiri, et les premiers articles écologistes de la presse française, les premiers, c'est Pierre Fournier, en 67, dans Harakiri. C'est lui. Et c'est de lui que ça repart, de lui et de ses amis, hein, Émile Prémilieu... un autre dont j'oublie toujours le nom. Bon, après, il va faire le comité Buget-Cobaye, tout ça. Bon, et c'est le début de l'écologie politique moderne. Hein. Mais Charbonneau travaille dans La Gueule Ouverte. Et constamment, dans Charlie Hebdo ou dans La Gueule Ouverte, tu as des petites pubs pour des bouquins qui viennent de paraître. Lisez Ellul, lisez Charbonneau. Lisez Ellul, lisez Charbonneau. Je ne lisais ni Ellul ni Charbonneau, mais je me rappelle d'avoir lu Lisez Ellul, lisez Charbonneau. Parce qu'en fait, c'est de là que venaient Fournier et d'autres, enfin, tu vois, et c'est dans La Gueule Ouverte que Charbonneau a publié ses chroniques du dernier Terrain Vague.
Les brochures en lien.
Les trois brochures. Là.
Voilà, on a Lutte contre Marx, Lutte contre Lénine.
Non, t'as lutte, c'est trois brochures. Le titre général, c'est de la technocratie. Il y a Lutte contre Marx, Lutte contre Lénine, Lutte contre les Américains. Et aussi, je pense qu'il faut rajouter la brochure sur Badiou. Badiou nous attaque et nous répondons. Et nous faisons humblement notre autocritique.
Et qui est Lude ?
Lude ?
Bon, Lude, c'est un personnage probablement imaginaire, mais qui sert de porte-drapeau à ce qu'on a appelé le mouvement ludite. Donc, dans les années 1811-1813, à peu près, dans trois comtés centraux de l'Angleterre. Et c'est ce moment de révolte des ouvriers artisans et des maîtres artisans, tisseurs, tisserands, l'industrie textile, enfin de l'artisanat textile, en fait. Donc toute la chaîne textile depuis les moutons jusqu'au produit fini, et qui était organisée en ateliers d'artisans familiaux. Dans les villages et qui utilisaient des machines, hein, mais des machines à tisser qui fabriquaient eux-mêmes, qui étaient à leurs mains, qui savaient utiliser, réparer, entretenir. Et qui voient arriver évidemment avec la révolution thermo-industrielle les premières fabriques qui prétendent rationaliser la production, mettre tout le monde sous le même toit, aux mêmes horaires, avec le cadencement de la production industrielle sur des machines qui cette fois-ci sont mues par la vapeur, donc qui sont plus automates. Donc ça veut dire transformer l'artisan en appendice de la machine, en ouvrier, avec des heures fixes, et employer aussi des femmes et des enfants qui jusqu'ici n'étaient pas employés ou pas comme ça, en tout cas dans la production. Les enfants notamment, parce qu'ils ont des petits doigts utile pour venir faire des nœuds, etc. Donc ce que ça change, évidemment, c'est que ça détruit toute une organisation, non seulement de travail, mais de social et d'un mode de vie villageois organisé autour de cette production-là, où on est indépendant, on est son propre patron, on fait un travail de qualité auquel on est très attaché, on s'organise comme on veut, si on n'a pas envie de travailler le lundi, c'est la Saint-Lundi, etc. Enfin, on connaît tout ça, hein, cette façon de... Et puis donc une vie sociale qui s'organise autour de cette autonomie de production et de savoir-faire. Ce que casse complètement donc, l'arrivée de la fabrique, puisque à ce moment-là, on devient, donc, comme on dit, des appendices de la machine, soumis aux horaires, à une cadence, à une productivité et à rendre des comptes. Enfin bref, on perd son autonomie.
Ce que Marx appelle la discipline de fabrique.
Et la discipline de fabrique, et qui plus est, pour produire, ce qui semble-t-il était un grief important pour eux, des produits de moindre qualité, dont on n'est pas fier. Donc on a perdu son savoir-faire, son indépendance, son autonomie de vie et financière. Enfin, bon. Donc c'est contre ça que vont se rebeller les partisans du général Lude. Donc en fait, ils s'inventent ce chef de guerre et ils commencent par poser des placards, donc écrire des harangues, enfin, et des menaces contre les fabriques qui placardent sur les murs en disant « si vous fermez pas la fabrique d'ici trois jours, on va passer à l'attaque ». Enfin bon, il y a une révolte qui se fomente comme ça, de façon très souterraine au départ. On ne sait pas qui sont les meneurs, c'est un mouvement très inclus dans la population, donc c'est difficile de distinguer des meneurs. Et puis il va y avoir donc des bris de machines. Ils vont dans les fabriques, ils brisent les machines, ils brûlent, ils interviennent, etc. Bon. Et puis la répression est féroce.
Il y a même des affrontements armés. Enfin,
il y a quelquefois
quelquefois ils sont attendus par
l'armée,
le patron
les
et sa famille. Il y a des échanges de coups de feu.
Le gouvernement prend ça tellement au sérieux qu'il rapatrie des corps d'armée qui étaient investis dans les guerres napoléoniennes et que je crois même il y consacre plus d'hommes qu'aux interventions extérieures.
Il y a l'armée qui vient rétablir l'ordre est plus nombreuse que le corps expéditionnaire britannique qui opère à ce moment-là au Portugal contre Napoléon.
C'est ça. Donc il consacre plus d'hommes à réprimer à l'intérieur ces luddites. Ça donne lieu aussi à quelques interventions de Byron qui à ce moment-là est élu à la chambre laquelle à la chambre
la chambre des lords,
là, des lords oui, puisqu'il est il est lord. Donc il prend la défense des luddites. Alors là, c'est tout le soutien des romantiques anglais à la lutte contre la machine. Et finalement, la répression est terrible. Les meneurs sont pendus. Le Parlement vote les lois réprimant donc de pendaison ou d'envoi aux galères pour des bris de machine. Et c'est ce qui se passe. Et donc, la révolte est brisée au bout de quelques années comme ça. Mais ça a laissé le mot luddite dans le vocabulaire. En anglais, quand on traite quelqu'un de luddite, c'est une insulte. Enfin, c'est un terme dépréciatif, mais évidemment, ça a été repris ensuite, évidemment, par des gens qui se réclament de ce mouvement-là. Mais c'est intéressant de noter que dans les années 50, en 57 de mémoire, un chimiste anglais qui s'appelle C.P. Snow et qui prononce une conférence pour dénoncer ce qu'il appelle les deux cultures. Alors c'est une fameuse conférence sur les deux cultures où il se plaint du fait que les scientifiques comme lui sont moins considérés finalement dans la société ou d'un point de vue intellectuel que ceux qui sont les représentants de ce qu'on appelait les humanités, donc c'est-à-dire les littéraires, ceux qui font de la philosophie, des langues, etc. Voilà. Et le terme qu'il emploie pour les dénoncer, pour dénoncer cette injustice en fait, c'est de dire que les littéraires sont des luddites par tempérament. Donc on voit que le mot luddite, il sert à désigner, au fond, ceux qui s'opposeraient, ceux qui se mettraient en travers de l'avancée de la machine. C'est ça. Donc voilà, le mot a eu une fortune un peu différente selon les époques.
Oui, mais Marx et les Engels, donc les socialistes scientifiques qui arrivent après les luddites, et après les Canus. Parce qu'en fait, ils ont pompé beaucoup de gens. Hein. Non, mais leur parti, à l'origine, ça s'appelle la Ligue des Justes. Le mot communiste, ils l'ont piqué au fils ou au petit-fils de Gracchus Babeuf, qui était libraire à Lyon. Ils ont transformé la Ligue des Justes en Ligue des Communistes. Ouais. Bon. Et donc Marx, écrivant bien après les soulèvements luddites, dit aux origines, le mouvement ouvrier était encore immature. Ouais. Il lui manquait Marx, Engels, Bakounine, tout ça. Et donc, les ouvriers s'en prenaient aux machines et aux marchandises, au lieu de s'en prendre aux rapports de production eux-mêmes.
Aux propriétaires.
Et la machine est innocente des maux que souffre l'ouvrier.
Et donc, l'histoire du travail bien fait, ça...
Il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il pense qu'à terme, il pense qu'on va améliorer sans cesse la machine. Il pense qu'on va... Non, tu comprends pas. C'est pire que ça. D'une part, il pense que la machine va sans cesse s'améliorer. On va sans cesse améliorer la machine. Et elle va faire sans cesse du meilleur travail. D'autre part, il y a une indifférence profonde à la question de l'autonomie. En 1874, Engels écrit un article qui s'appelle « De l'autorité », publié dans un journal italien, où il dit « Bon... on abuse du mot autorité et du mot anti-autoritaire. En fait, il n'y a rien de plus autoritaire qu'un processus productif. On devrait mettre à l'entrée des fabriques « Voi qui entrate, lasciate ogni autonomia ». Il reprend la phrase de Dante à l'entrée de l'enfer. « Toi qui entres, abandonne toute espérance ». Là, c'est « abandonne toute autonomie ». Donc, ça veut dire... Dixit Engels, que au moins pour les heures de travail, le prolétaire n'a aucune autonomie. Et c'est très bien ainsi. C'est ainsi que ça doit être. Et d'ailleurs, parce qu'il faut que le produit sorte. Et une usine, c'est réglé comme une pendule, comme une horloge. Il faut que ça tourne. Et Engels dit, on n'imagine pas les passagers d'un train allant discuter avec le mécanicien de la locomotive pas plus que tu n'imagines aujourd'hui des passagers d'un avion allant discuter avec le pilote automatique derrière lequel est assis un type qui dort. Hein ? Bon. Et heureusement qu'il y a le pilote automatique. Hein ? Et donc, Marx et Engels ont une profonde antipathie pour cette idée d'autonomie. Ce qui compte pour eux, c'est la notion de rapport de production et de propriété des moyens de production. Donc, à partir du moment où la classe ouvrière, la classe prolétarienne, est juridiquement et nominativement propriétaire des instruments de production, eh bien, la question d'autonomie n'a aucune importance. On va améliorer sans cesse les machines. En conséquence de l'amélioration perpétuelle des machines, le temps de travail va diminuer. Donc, l'ère de la nécessité va se réduire, l'ère du besoin va se réduire, et va s'ouvrir l'ère de la liberté, le temps de liberté, le temps des loisirs. Bon, ce qu'il viendra pour Geoffre du Masdier après-guerre, sociologue, la civilisation des loisirs, avec de graves questions et grattements de tête sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre des loisirs. Tu vois, Club Med, machin, formation permanente, macramé, bon. Mais Marx et Engels ont une profonde antipathie pour les briseurs de machines. Pour eux, pour le coup, ça leur paraît obscurantiste et réactionnaire. Ce sont des productivistes. Et la mission historique des partis communistes, j'insiste là-dessus, des partis communistes, qu'ils soient staliniens ou trotskistes, et de beaucoup d'anarchistes d'ailleurs, et des syndicats, ça a été d'inculquer à la classe ouvrière le respect de la machine et le respect de la fabrique. Parce que spontanément, la classe ouvrière, elle n'en avait rien à foutre de tout ça. L'ouvrier, spontanément, c'est l'ouvrier du bâtiment. T'as qu'à lire Zola, tu verras, il va au boulot quand ça lui chante. Hein. Bon. Et s'il veut bien, et s'il est bien payé. Mais ça, ce prolétariat-là, il a été écrasé en juin 48. C'est la dernière fois qu'il se soulève. En juin 48, il est écrasé. Et oui, ou la commune, si tu veux. Mais la commune, il sera écrasé également. Mais durant la commune, c'est pas tellement un prolétariat d'usine qui se soulève durant la commune. Des ateliers, bon, mais... Donc il faut bien dire que les communistes, les socialistes, les trotskistes, le parti anticapitaliste est un parti pro-technocratique qui ne dit pas son nom et qui dissimule la forêt technocratique derrière l'arbre du capital. Et ça lui convient bien.
Chez les accélérationnistes aujourd'hui, en fait, cette idée que le problème est, encore une fois, la propriété des moyens de production, mais qu'en revanche, on a besoin d'accélérer le processus d'innovation technologique pour aboutir finalement au renversement final annoncé depuis tant de temps. Mais donc, il faut toujours plus de technologie, toujours plus d'innovation. Et on est encore dans ce schéma-là chez eux. Quoi.
Et c'est une position reprise par André Gorz dans ses derniers ouvrages, qui est un drôle d'oiseau. Bon, il a été un peu tout. Hein. Il a été existentialiste, il a été journaliste au Nouvel Observateur, il a été conseiller à la CFDT. C'est pas un type antipathique, mais bon, dominé. En fait, ça a toujours été un épigone. Il a toujours été à la remorque de quelqu'un. Alors pour le coup, lui, il n'a pas été autonome. Même quand il discute avec Marcuse, il comprend rien. Et finalement, il comprend pas ce qu'il faudrait comprendre. Il comprend pas. Bon. Et donc, le dernier Gorz, en fait, se rallie à Marx et se rallie au Grundrisse. Elle ébauche une contribution de la critique de l'économie politique 1856-1857, où Marx explique que, et il le cite favorablement, il le commente, et il dit c'est ça, oui, c'est exactement ça. Où il explique que, en fait, l'avenir, c'est la machine. Et les machines vont travailler à notre place, et donc nous, on travaillera de moins en moins. Mais le travail qu'on fera, il le reconnaît, c'est un travail interchangeable, anonyme et sans intérêt. mais il sera très réduit. Ce sera un jour par semaine, 4 heures par semaine, 2 heures par semaine, je ne sais pas quoi. Et donc, tout le reste du temps, ce sera la sphère du temps libre qui restera organisée. Hein, et où tu pourras t'épanouir. Pourquoi faire ? Ah ben, si tu en crois, par exemple, Guy Debord, qui a beaucoup donné dans ces trucs-là au début, eh ben, tu pourras travailler à l'invention de nouveaux besoins. Trotsky dit ça aussi. Travailler à l'invention de nouveaux besoins. Mais qu'est-ce que ces types ont dans le crâne ?
Enfin, la question est réglée. Il y a le métavers qui va occuper...
Travailler à l'invention de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, mais...
Sur le temps de loisir.
Ben, quand t'as rien à faire.
C'est ça qui est créatif.
Ça va t'occuper.
C'est ça qui est créatif. Le contenu de cette création, c'est d'inventer de nouveaux besoins. Mmh. Et donc de se lancer de nouveaux objectifs, de relancer par une incapacité totale à jouir de ce qui est et de ce qu'on a. Bon, tu peux inventer des nouveaux besoins, moi je veux bien, mais du calme.
Non, mais du coup, on n'a jamais le temps de rien maintenant.
Comment ?
Du coup, on n'a plus jamais le temps de rien. On n'a plus le temps de s'ennuyer.
C'était l'objectif.
Ouais.
Vivre sans temps mort, jouir sans entrave. C'est le modèle central des situs.
Non, mais on en revient à cette idée qu'il faut tout le temps.
Il n'y a pas de limite. Jouir sans entrave.
Il faut faire. C'est... Ouais.
Et vivre sans temps mort, tout le temps être au max, tout le temps être à fond.
Mais du coup, ça vend la mèche de... On part de chasseurs-cueilleurs qui, dans certaines sociétés, passent moins de temps que nous à subvenir à leurs propres besoins. Ça dépend des régions, enfin, bref, pour faire vite. À une promesse d'un monde machine qui va nous permettre de nous libérer du travail. Et en fait...
Picrocole.
Et voilà. En fait, on est submergé de tout ça.
C'est le roi Picrocole.
Sans temps mort.
C'est le roi Picrocole. Pourquoi ne pas commencer par là ? pourquoi faire tout ce détour pour arriver à faire quelque chose ?
Pour en revenir au point de départ. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas revenir au point de départ, puisque entre-temps, il s'est passé un tout petit truc, c'est que nous avons dévasté la Terre. éventuellement, nous aurions pu continuer à vivre... à peu près tranquillement, à un rythme vivable, et ainsi de suite. Bon, là, maintenant, évidemment, la question ne se pose plus. Maintenant, nous sommes dépendants pour toujours, arrive, en tout cas, là, de solutions technologiques.
Mais tu comprends bien que quand Guy Debord publie enfin La planète malade, fin 71, 72. Début 72, je sais pas, enfin, il y a une hésitation sur... Bon, c'est bien, ok, c'est un très beau texte d'ailleurs. Non, c'est pas un très beau texte en fait, parce que. Non, mais attends, je suis en train de réfléchir. Parce que. Non, mais bon, d'abord, c'est un texte d'arrière-garde. Il arrive après Pierre Fournier. Ça lui plaît pas, peut-être. Ça l'ennuie qu'on parle de pollution parce qu'il n'a pas été le premier à en parler. Mais c'est comme ça. Et comme c'est comme ça, il est obligé d'en tenir compte. Donc, il publie son encyclique. Pour dire ce qu'il est juste d'en penser. Et quel est le dernier mot de Guy Debord ? C'est « La pollution, elle est capitaliste. Quand il y aura des soviets de marins sur les pétroliers, il n'y aura plus de pollution. Après il n'y aura plus de marée noire. »
Pensée magique. Pensée magique.
Relis La planète malade. Quand il y aura des soviets de
marins... C'est le discours...
C'est de l'anticapitalisme bêta.
L'anticapitaliste vert. Hein ? Enfin, c'est la version verte.
C'est du NPA. C'est digne du NPA.
À cela s'ajoute l'entourloupe portée alors là par le parti technocratique sur le fait que le problème principal que nous devons régler par tous les moyens technologiques adaptés, c'est la question climatique. Et au sein de la question climatique, encore plus réduit, c'est la question du CO2, du carbone. C'est vraiment, le problème est très simple, les ingénieurs l'ont étudié. Si on règle la question du CO2 au sein du climat, tout va bien. Donc, très bien, on met des ingénieurs là-dessus, comme dirait l'autre, et ils vont nous produire une société décarbonée, c'est-à-dire électrique. Bon. Et donc, nucléaire et couverte de nouvelles machines. c'est-à-dire des éoliennes, des panneaux solaires, ainsi de suite.
Une nouvelle génération de machines, en fait.
Et donc, l'entourloupe, évidemment, ça consiste à écarter de l'horizon des problèmes la question de l'entropie. L'entropie de la matière et de l'énergie. C'est totalement absent. Et les pollutions en plus. De temps en temps, on parle un peu des pollutions comme ça. Parce que... Mais bon.
C'est-à-dire que dans le cahier des charges, il y a, la décroissance n'est pas envisageable.
Et donc, moyennant.
Tout ce qui range sous le chapitre des décroissances.
Moyennant comment dire. Le fait qu'on cache ou qu'on oublie volontairement. Cette question de l'entropie, on fait croire qu'on va continuer si on obéit aux experts, à la technocratie, qui eux seuls ont la solution. Parce qu'après, si tu commences à rentrer dans la question de l'entropie, c'est-à-dire objectivement le fait qu'à un moment donné, va se poser la question des ressources et de l'énergie, de la matière et de l'énergie, là, les technocrates, ils vont avoir un problème. C'est-à-dire que même s'ils espèrent que les nanotechnologies vont venir répondre à ces questions en fournissant des nouveaux matériaux, des nouvelles sources d'énergie, bon, ils sont quand même conscients que la course, elle est difficile à gagner. Bon. Donc, ils préfèrent laisser ça de côté et focaliser sur la question uniquement climatique. Donc, la génération climat, en plus, ça tombe bien, elle est là-dedans, voilà, elle n'a pas tout compris. Et encore une fois, c'est une manière de redonner le pouvoir à la technocratie et de remettre une pièce dans la machine pour dire bah, les solutions, elles sont technologiques. Et donc, en effet, il n'est pas question de décroissance.
La fusion solaire.
Fusion
nucléaire, enfin je dis solaire parce que il s'agit de reproduire le solaire en... dans un espace confiné. Oui, la fusion nucléaire, les nanomatériaux, à mon avis, ils ne vont pas le dire non plus, mais aussi une épuration démographique, un délestage démographique tacite.
Puis la géo-ingénierie.
Et la géo-ingénierie, bien sûr.
Ouais, ça paraît très performant. Quoi, mais
on y travaille, oui.
Mais pour le moment, ça ne donne pas grand-chose. J'ai bonne mémoire, j'ai essayé de te résumer ce que nous avions fait, en tout cas ce que je croyais que nous avions fait depuis 2000. La première chose que j'ai dite, c'est que quand on travaille sur cet enchaînement technologie technocratie, transhumanisme, évidemment, on ne prétend pas avoir découvert chacun de ces phénomènes, de ces faits, ni d'avoir été les premiers à les nommer. La technologie, on a toujours expliqué que c'était... On est remonté aussi haut qu'on a pu. Nous, on est tombé sur Bigelow, un universitaire américain, qui, en 1829, forge le mot. Avec un sens qui est à l'origine l'étude, logos, logie, des technos, des techniques. Bon. Mais rapidement, avec le machinisme industriel, le mot acquiert un sens secondaire qui est l'application de la science aux techniques industrielles. Bon, c'est sous ce sens dérivé, sous ce sens B, que le mot est resté dans l'usage courant. Et c'est pour ça que nous, on a défini la technologie comme le produit des noces de la science et du capital à l'ère industrielle. Bon. On n'a pas davantage inventé le terme de technocratie. J'y reviendrai plus tard, mais c'est un ingénieur américain qui s'appelle William Henry Smith qui a forgé ce mot en 1919 dans un article que je n'ai pas en tête là, ingénieur californien. Bon, je te donne la définition qu'en donne le Trésor de la langue française en 1952. Substantif féminin, la technocratie, substantif féminin, souvent péjoratif, système politique, social, économique, dans lequel les avis des conseillers techniques, dirigeants, professionnels d'administration, déterminent les décisions en privilégiant les données techniques par rapport aux facteurs humains et sociaux. Par métonymie, le groupe social participant à ce système. Bon, la technocratie comme aristocratie. C'est-à-dire l'aristocratie à l'époque de la technologie, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc ce mot-là non plus, on ne l'a pas inventé. Et le transhumanisme, dont il a été longuement question précédemment, c'est-à-dire l'homme augmenté, c'est-à-dire en fait le surhomme. Le transhumanisme, en fait, c'est déjà un mot un peu abusif, parce que dans l'esprit de ses promoteurs, c'est plutôt le surhumanisme. Le surhumanisme via l'augmentation machinale. Bon. Mais bref, le transhumanisme, c'est pas nous non plus qui avons inventé ça. C'est Julian Huxley et Teilhard de Chardin. Et là aussi, ça vient d'une élaboration intellectuelle vieille d'un siècle et demi. En partie en Occident, à partir de Condorcet, de l'esquisse d'un tableau des progrès de la civilisation et toute la suite. Et en partie de Russie, à partir de Fiodorov, d'un conservateur de bibliothèque qui a généré les constructeurs de Dieu du temps de bolchevique, tout ce courant rival de Lénine, avec Gorky à l'école bolchevique de Capri, Bogdanov, Lunacharsky, enfin bref, tous les... Et puis Trotsky, finalement, c'est-à-dire tout le courant transhumaniste russe bolchevique. Russe dans un premier temps, bolchevique ensuite. Bon. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons articulé ces trois termes. Pour reprendre ce que dit Pascal, qu'on ne me dise pas que je n'ai rien dit de nouveau, la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume, bon, c'est le tennis de son temps, enfin la pelote basse de son temps, c'est une même balle dont jouent l'un et l'autre, mais l'un la place mieux. Bon, nous, on pense qu'on les place mieux. J'aimerais autant qu'on me dise que je me suis servi de mots anciens. Oui, c'est bien ça qu'on a fait. Et comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours, par une disposition différente. Aussi bien que les mêmes mots forment d'autres pensées par leurs différentes dispositions. Donc, ce que nous avons fait, c'est articuler technologie, technocratie, transhumanisme. Ça, c'est notre apport. C'est l'apport de fond. Le deuxième apport qu'on a eu, c'est de faire de la technologie constamment un enjeu politique et de constamment remettre la technologie en avant comme enjeu politique. Soit par des études de cas, nos enquêtes, soit par des campagnes d'opinion, soit par des actions, soit de façon à ce que la technologie finisse par être l'une des rubriques de tous les sites alternatifs. Mais je ne suis pas très sûr de ça. Enfin, vous me le dites, mais bon, je vois beaucoup de sites anticapitalistes, je ne vois pas beaucoup de sites anti-techno ou anti-industriels. Il y en a, je les connais, c'est nos copains. Donc, je revendique, je prétends que nous avons eu ce deuxième apport spécifique. D'autres ont porté la critique des technologies, d'autres nous ont suivis, bon. Et tant mieux. Mais c'est nous qui l'avons porté avec le plus de constance et le plus d'approfondissement depuis 20 ans. Mais bien entendu, on ne l'a pas inventé, nous sommes des héritiers. Nous avons lu des gens qui avaient écrit avant nous et dont nous sommes nourris d'Épicure à l'Encyclopédie des Nuisances. Bon, rime et s'emprunt en fait. Bon. Et troisièmement, je pense que on a pris le ballon et on l'a porté plus loin. On a gardé les yeux sur le ballon. Grande recommandation des coachs sportifs, gardez les yeux sur le ballon. On a gardé les yeux sur le ballon et on l'a porté plus loin. C'est-à-dire que cette question de la technologie, du transhumanisme, etc., on a essayé de la porter plus loin et de comprendre d'où ça venait. Ce qui nous a amené à creuser la question de la puissance. tout cela, finalement, résulte, à notre sens, d'une volonté de puissance, d'une course à la puissance, qui est intrinsèquement liée, je crois, à l'espèce humaine, et singulièrement à ses factions et à ses individus les plus dynamiques et les plus offensifs. Bon, la puissance entendue, enfin ça on en avait déjà parlé, comme volonté d'agir sur le monde et sur soi-même, de maîtriser le monde et soi-même, et de transformer le monde et soi-même. De le transformer d'ailleurs au point de le détruire. Bon. Ce qui nous a amené à forger, en dehors des néologismes qui nous appartiennent, de technotope et de technocène, celui de puissance. Bah, ça peut sembler une coquetterie de langage, c'est un mot valise, mais en fait, c'est simplement l'alliage de la puissance et de la science. La science comme vecteur de puissance. Pas de puissance sans la science. Voilà. Et la science, c'est ce qui permet de pouvoir. De puissance. Là, on a multiplié les séances de discussion. On est passé en revue pas mal de sujets sur lesquels nous avions travaillé, de campagnes qu'on avait menées, etc. Le sens général de tout ce travail effectué, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Pour le moment. On arrête là ? Ok.
Allez, on arrête là. C'est la fin de ce podcast et c'est la fin de la série Face au monde machine, un entretien technocritique avec les grenoblois de pièces et main-d'œuvre. On avait beaucoup à explorer et pour bien tout comprendre, il nous fallait du temps et ce temps, on l'a pris ensemble. Merci donc pour votre écoute, pour votre assiduité si vous êtes arrivé jusqu'au dernier épisode. On espère que ça vous a plu, que le format un peu plus grand que d'habitude a permis de rendre correctement compte de leur travail. Merci à pièces et main-d'œuvre d'avoir accepté ces discussions en juillet dernier à Grenoble. Merci bien sûr au Chimère Café de nous avoir ouvert 3 fois ses portes pour qu'on puisse réaliser cet enregistrement. Moi-même et mon copain Belka qui est venu avec moi, qui a préparé et réalisé cet entretien. Un peu de promotion personnelle, j'ai monté et mixé ces podcasts, mais j'ai aussi composé et interprété les musiques originales qui l'accompagnent. Toutes ces musiques sont désormais disponibles. Vous les retrouverez en ligne sous forme d'un album, lui aussi intitulé « Face au monde machine ». Je mettrai le lien en description. Et la chanson de fin « Adieu » est interprétée avec mon groupe de musique « Eudland ».
Cette défense indissociable de la nature et de la liberté est le bien commun de tous ceux qu'anime l'instinct de vie. Écologistes radicaux, anti-industriels et anti-autoritaires, ludites, décroissants, primitivistes, naturiens, etc. Pour renverser l'actuel déferlement de biophobie chez les hommes-machines, il nous faut d'abord restaurer notre histoire, notre culture, notre corpus théorique, littéraire et artistique, les vies et les œuvres de tous les vieux amis de la Terre. Et l'on verra alors que nous disposons d'un héritage, d'une richesse et d'une ancienneté merveilleuse au regard des misérables courants industrialistes et saint-simoniens. Et encore moins de vos yeux. assassiner nos océans. Adieu, oui, adieu, à tout jamais, à votre putain de société. On s'en fout de vos vitrines, on veut plus de vos machines, et encore moins de vos usines. Y'aura pas de transition, ni de vos solutions, mais juste une révolution. Quand je sais qu'on tue les plus fragiles, je peux plus, non, je peux plus vous voir détruire ce qu'il reste encore de l'avenir. Adieu, oui, adieu, et pour de bon. À ce qui fait la civilisation.